Merci pour cette invitation qui prolonge donc les discussions qu'on avait déjà eues au moment de la sortie du recueil La guerre civile mondiale, puisque c'est le juin, vous avez d'ailleurs invité aussi avec Philippe Reynaud et Jean-Pierre Corrigan, me semble-t-il, une rencontre autour de ce recueil. Alors moi j'ai lu avec grand intérêt, malheureusement pas de manière aussi approfondie que j'aurais voulu, puisque j'ai été pris par diverses tâches, donc ça, c'est une lecture partielle, hein, mais avec grand intérêt ce volume. Il me semble qu'il y a quatre grands apports qui correspondent en gros aux quatre grandes parties, donc c'est commode. D'abord cette restitution très, très poussée, très fine, au fond du milieu, des internationalistes, du contexte scientifique, alors entre guillemets, enfin entre science et idéologie de cette jeune science, de cette jeune discipline qui est le droit international, en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres. L'impression un peu d'une science en tension idéologique avec elle-même, une science qui est un peu obligée de revenir sur des impossibilités qu'elle déclare, ou des sortes de contradictions performatives. Donc ça, je trouve ça tout à fait passionnant. Ensuite, une localisation très précise de Schmitt dans, notamment de ses réflexions sur l'impérialisme des années 20, et sur le droit international en général des années 20 au Nomos de la Terre. Donc restitution, localisation dans le cadre et dans l'écart. Enfin, à chaque fois, c'est cette restitution qui vise aussi à déterminer ce qui était de l'ordre du lieu commun, dont on ne mesurait éventuellement pas que c'était des lieux communs, et ce qui est de l'ordre vraiment de la singularité de Schmitt. Donc l'écart par rapport à des théories de l'impérialisme, de droite et d'extrême droite, et de gauche et d'extrême gauche, d'essayer de restituer ça. Alors, ça m'achemine vers le troisième apport et vers la thèse majeure du livre, donc cette dette, ou cette façon de faire passer le Marx, cette dette profonde et inavouée, refoulée ou dissimulée par Schmitt lui-même à l'égard du marxisme et de la théorie léniniste de l'impérialisme, cette épistémologie silencieuse de Schmitt. Peut-être très intéressante. et ensuite, l'étude, bien sûr, du thème de la guerre civile mondiale comme objet. Alors, invention de Schmitt, peut-être en même temps objet d'une sorte d'élaboration collective avec Kozelek, avec des discussions qui impliquent aussi, qui rejaillit d'ailleurs sur voilà, une autre histoire de l'Europe, une autre histoire peut-être des concepts aussi, comment ce schème de la guerre civile européenne et mondiale peut permettre de réécrire l'histoire du droit, de la politique, et d'appréhender aussi, bien sûr, l'actualité évolutive, avec ensuite les figures du terroriste, du partisan, qui apparaissent dans cette partie du livre aussi, donc la théorie du partisan, mais même une confrontation continuée avec, finalement, ce moment inaugural de la guerre civile et de son dépassement, qui est Hobbes. Finalement, on peut justifier l'inclusion de la partie sur Hobbes dans cette partie, puisque, au fond, Hobbes est une sorte de premier penseur de la peut-être d'une guerre civile européenne d'un autre type, une guerre civile confessionnelle et son dépassement étatique dans l'État moderne. Alors moi, bien sûr, j'ai beaucoup appris, et je pense que voilà, beaucoup de lecteurs apprendront beaucoup en lisant tout ça, mais si j'ai été tout à fait convaincu par le traitement du premier point, toute cette évocation du droit international sous Weimar, j'avoue, je persiste à avouer un certain scepticisme sur la thèse centrale et sur le marxisme profond et caché de Schmitt, y compris dans sa variante appliquée au Nomos de la Terre, qui serait un livre essentiellement léniniste épistémologiquement, mais non axiologiquement ou politiquement, bien sûr. Alors bien sûr, mais un peu difficile aussi, ça se bien sûr peut-être. quant au dernier point sur la guerre civile mondiale et bon nombre de remarques de ce chapitre, autour notamment de l'humaniste théorique, du crime contre l'humanité, de la distinction partisan-terroriste, là c'est plus, j'ai une sorte de j'ai peut-être plus de mal que vous à faire le départ, hein, entre voilà, la lecture d'un auteur et l'appropriation et les conclusions politiques, mais moi j'émettrais quelques désaccords et quelques réserves, mais qui sont plus des réserves politiques, éthico-politiques, que peut-être vous suggérez, ou vous retenez davantage, je ne sais pas, ça c'est peut-être sur le mode d'écriture aussi, votre mode d'écriture, qui parfois, là aussi je persiste à le trouver trop empathique par rapport à Schmitt, ou trop charitable, je ne sais pas comment le dire. Alors, je passe rapidement sur le premier point, parce que finalement vous l'avez très très bien résumé, etc., et je n'ai pas grand-chose à à dire, sinon l'intérêt, je trouve, de cette étude du presque. Enfin, on pourrait citer un peu des choses de Bourdieu sur l'espace des positions et l'espace des prises de position autour du droit international comme discipline naissante qui cherche sa légitimité, qui est aussi entre idéologie et recherche de formes de scientificité, et qui est tendue par le fait qu'elle attribue au fond. Au traité de Versailles, une sorte de valeur presque inaugurale de naissance du droit international, donc qu'elle est le droit international, qu'elle a en même temps pour fonction de travailler, de théoriser, et dont elle essaye de montrer qu'il est toujours, voilà, plus ou moins impossible, bancal, faussé, etc. Et donc ça, avec l'étude de Triple, de Brinkmann, de les textes de Schumpeter, tout ça que vous citez, qui bien sûr nourrissent, voilà, ils font voir autrement effectivement certaines interventions de Schmitt qui perdent parfois leur singularité, la singularité qu'on pouvait leur attribuer. Donc ça, je trouve, c'est un formidable dossier qui vraiment contribue à l'étude de Schmitt. Alors j'en viens, parce que c'est peut-être plutôt ça qu'on attend de moi au point critique, et qui est donc ce thème, cette thèse du marxisme de Schmitt. Je cite une formulation, je pourrais en citer beaucoup parce que c'est une thèse qui est vraiment, je trouve, presque obsessionnelle dans le livre. C'est quelque chose d'étonnant dans la façon dont vous le répétez. Vraiment, il faudrait trouver le nombre d'occurrences. C'est assez impressionnant. Alors, je cite, ça c'est un passage, page 194. Les juristes internationalistes de Weimar étaient ouverts à la géopolitique. Schmitt pouvait se servir de cette discipline neuve comme d'un habit pour introduire certains pans du matérialisme historique dans le droit international. La géopolitique lui permet de revêtir d'un vocabulaire non matérialiste un contenu matérialiste et d'opérer un habillage géographique d'idées marxistes. Donc là, on a une représentation quand même très très particulière hein, de l'œuvre de Schmitt, y compris du nomos de la Terre, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un projet intellectuel de Schmitt, un souci intellectuel majeur de Schmitt, ou j'ai cité Bourdieu, on pourrait dire un intérêt expressif de Schmitt profond, qui est cette passion pour le matérialisme historique, pour Marx, pour Lénine, etc., et qu'il est obligé d'habiller cette passion par le truchement, l'habit, etc., de la géopolitique, de considérations sur la géopolitique, d'introduire le marxisme dans la géopolitique comme si c'était cette façon, mais peut-être je comprends mal, ou peut-être vous pourrez expliquer, c'est comme si c'était un projet politique, mais peut-être ou intellectuel, mais tellement difficile dans la situation de l'université qu'il doit dire le contraire sans cesse, enfin, qu'il doit se dire quand il, parce qu'il parle beaucoup de Marx, il parle beaucoup de Lénine, tout de même.
Oui.
Et il ne dit jamais que c'est cela qu'il fait. Donc, on peut lui attribuer un tout autre projet que son projet explicite, ce qui est, enfin voilà, c'est pas inédit, bien sûr, comme démarche, mais qui est quand même assez particulière. Et je trouve que ça produit parfois des effets intéressants et parfois, je dirais presque convaincants, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça produit une certaine distorsion de. Voilà, de la logique même de cette approche schmittienne des transformations du droit international et même du nomos de la Terre, ce livre très passionnant de Schmitt sur le nomos de la Terre. Alors moi, là où je serais tout à fait d'accord avec vous, c'est sur l'importance de Marx, bien sûr, enfin, sur le fait que c'est une référence majeure de Schmitt, une référence dont il s'approprie un certain nombre de d'intuition, de thèmes, éventuellement pour renverser les conclusions, mais dont certainement il s'est imprégné. On le voit très bien d'ailleurs dans d'autres textes, pas sur le droit international, mais sur la dictature, bien sûr, où il y a une espèce, même d'ailleurs, l'idée même, de l'approche même du droit, qui est fondamentalement suspendue à une sorte d'exception politique. On peut y voir un thème presque marxien, je crois, enfin une sorte de critique du droit, critique de la philosophie du droit prolongée, de démystification du droit qui se présente comme éternel, naturel, etc., et dont Schmitt finalement montre toujours qu'il est en tension, hanté et ancré dans des rapports de force, dans des possibilités politiques de suspension, etc. Donc moi, je pense bien sûr qu'il y a, si l'on veut, une influence de Marx ou une présence de Marx chez Schmitt. Et qu'il y a aussi un verso, et qu'on peut dire effectivement le nomos de la terre, il y a quelque chose qui s'apparente de loin au marxisme, qui est cette façon de relire l'histoire du droit international en insistant sur la, ce qu'il appelle parfois Rechtskraft, la force de droit, l'appropriation, la prise. D'ailleurs, il cite, je ne sais plus si c'est Marx ou Lénine, d'où tiens-tu en dialogue avec un enfant, ton papa, il a beaucoup de propriétés, oui, d'où il les tient, de son père, et son père, il les tient d'où, et, bah, de son père, de son grand-père, et son grand-père, il les tient d'où, il les a prises. Mmh. Il les a prises, donc il y a la prise à l'origine de la propriété, des rapports de droit, d'une certaine façon. Et donc ça, on peut dire qu'il y a une parenté, effectivement, mais en même temps, il y a une toute autre écriture, je crois, de l'histoire, alors qui a quelque chose d'une sorte de... C'est peut-être une sorte de matérialisme de l'élémentaire, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire les rapports. Le matérialisme aussi, on va le chercher dans le rapport à des éléments, à la prise technique sur ces éléments, à la capacité de dominer les mers, de dominer la terre, de dominer l'air. Il y a une histoire technique du droit international et de la puissance qui est capable de dicter la norme du droit international, de donner le « là » du droit international en fonction d'une histoire technique, tellurique, élémentaire. Alors, est-ce que ça, c'est de la mythologie de Schmitt? Sans doute. Ça communique avec une mythologie avouée dans les années 30, une mythologie de la terre et de la mer. Comment est-ce que vous voyez cette articulation entre ce qui serait donc le matérialisme véritable de Schmitt, un matérialisme marxiste, etc., et cette forme qu'il donne, qui est assez singulière et en même temps frappante, hein, que, par certains côtés assez extraordinaire, mais qui n'est certainement pas du matérialisme léniniste, etc. C'est autre chose.
J'ai parlé d'une alliance avec le spiritualisme. Je ne dis pas qu'il est entièrement et tout le temps matérialiste. Ouais. Je ne l'ai pas dit.
Vous dites quand même, je peux reciter la formule si vous voulez, qu'il... Alors, j'ai une autre citation intéressante, page 138. Non, mais ce n'est pas du tout pour vous mettre, moi je ne cherche pas à vous embêter, hein, mais c'est que j'ai été frappé par ces formules qui quand même... situe le marxisme et le léninisme, même alors que Lénine n'est pas cité une seule fois dans le Nomos de la Terre, vraiment au centre du livre. Je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas le citer. Il le cite ailleurs, il le cite à d'autres moments. Alors, est-ce qu'il ne peut pas le citer en 1950, juste?
Alors, il le cite dans ce qu'il appelle son septième corollaire au Nomos de la Terre, mm-hmm. Qui est le texte qui s'appelle « Prendre, partager, paître ».
Ah oui, le corollaire, oui.
Voilà. Il appelle son septième corollaire plus tard. C'est-à-dire au moment où il ressort ses sources. Ouais. Il dit « Moi, j'ai écrit un septième corollaire au Nomos de la Terre ».
Et oui, là, il ne parle que de... le corollaire, oui, mais Lénine a été voir une conférence de Chamberlain, et au fond, il a traduit Chamberlain à sa façon, dans une dialectique qui, d'ailleurs, doit déboucher sur l'effondrement du capitalisme, etc. Oui. Toutes choses que Schmitt ne reprend pas du tout à son compte.
Alors, sauf que le langage que Schmitt reprend à son compte, c'est quand même, les discussions qu'il met en œuvre, ce sont des discussions. Là, c'est un langage qui n'était pas là dans le Mousse de la Terre. Mais pour moi, c'est la discussion sur les modes de production, sur le rapport social. Il parle de Proudhon également. Mmh. C'est vraiment ce langage-là. On a l'impression que c'est... Et il dit, c'est mon septième corollaire au Nomos de la Terre. Juste pour vous répondre sur la question du Nomos de la Terre, ce qui me paraît décisif, c'est le rôle qu'il fait jouer à la Conquista. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas seulement la prise de temps en temps avec mon papa, etc., la conception de la propriété mm-hmm. privée. C'est-à-dire de dire, à l'origine du droit des gens, il y a une face sombre. C'est pas l'humanisme.
Ah oui, mais attendez, il ne faut pas trop dire face sombre, qui reproche beaucoup les gens à ses adversaires, la leyenda negra sur la conquista. Mm-hmm. Il reproche beaucoup aux anti-impérialistes d'insister sur la légende noire de la conquista, dont il est plutôt, lui, un tenant.
Oui, non, sauf que lui, il dit, quand il analyse notamment la pensée de Vittoria, il dit, Vittoria, pourquoi on peut considérer dans ce débat, est-ce que c'est Vittoria ou Grotius le père du droit international? Mm-hmm. Donc, il y avait un débat qui était en fait un débat d'école. Mais qui est quand même intéressant, il dit, à mon avis, c'est Vittoria, c'est pas Grotius. Et Grotius, ce qu'il n'a pas du tout vu, c'est qu'en fait, il analyse, il ne parle pas de la conquista, donc il ne parle pas de l'élément fondamental, fondateur du droit des gens européens, qui fait qu'il y avait une coupure sur la planète, au niveau mondial, entre l'Europe et le reste. et qu'il y avait, ça valait pas partout et que l'Europe était dominante. Enfin, il dit pas des choses comme ça. Mais quand on voit la façon dont il, le rôle qu'il donne à Vittoria comme père du droit international, il prend position.
Qui était un lieu commun pour le coup. Oui.
D'accord. Dans, donc dans un débat institué qui était vraiment, qui était en fait commun à beaucoup de, voilà, qui était déjà là, il dit c'est Vittoria, c'est pas Grotius. Et les arguments qu'il avance, c'est mais Vittoria a compris que on peut pas, enfin on peut pas simplement parler de droit civil, dire que les Européens ont pris les Amériques comme, comme, je sais pas, un homme prend une maison ou une pomme. Hein, c'est les catégories du droit civil, de la propriété du droit civil. Ça, c'est un, c'est, pour lui, ça ne le satisfait pas du tout. Hein. Donc là, il me semble que dans le langage des juristes et dans les débats qui sont ceux des juristes, il y a quelque chose qui, dans la structure et pas dans le langage, effectivement, est au moins analogue à ce que font les théoriciens de l'impérialisme.
Je ne poursuis pas maintenant la discussion, parce que, mais je crois que voilà, on voit un peu, le, effectivement, le, il me semble que l'analogie est assez générale. Alors, je ne vais pas non plus parler trop longtemps, finalement. Attendez, je vais... Enfin bon, donc ce rapport au marxisme, je pense qu'effectivement, il y a de multiples manières. C'est un grand sujet passionnant, je trouve, le rapport de Schmitt au marxisme. C'est pas du tout, moi, je, du tout pour déclarer ce sujet nul et non avenu. C'est, je pense que c'est un grand sujet difficile et très intéressant. Et donc, peut-être juste pour poursuivre un peu sur l'impérialisme un instant, et après, j'essaierai de parler des deux autres points rapidement. Il me semble que le Schmitt peut emprunter à la critique marxiste-léniniste de l'impérialisme. Enfin, il emprunte effectivement des choses aussi dans des textes plus tardifs, où il y a ce thème, où déjà dans les années, fin des années 30, je crois, enfin, ça vous le direz mieux que moi, mais le thème de l'impérialisme économique qui combine la porte ouverte et l'ouverture au marché avec éventuellement un principe d'intervention militaire à certains quand le marché ne s'ouvre pas assez vite. Bon, ça c'est quelque chose qui je pense qui reprend directement effectivement du marxisme, et cette idée aussi du pan-interventionnisme qui s'arme de raisons morales pour dissimuler peut-être ses fondations économiques. Bon, c'est un thème d'une certaine façon qui communique, je pense, entre Marx et Schmitt, qui a donné d'ailleurs la possibilité de cette reprise d'extrême gauche de Schmitt aujourd'hui face à des nouvelles guerres justes, à un nouvel impérialisme libéral, etc. Ça, je pense que c'est aussi bien sûr un point de la présence schmittienne aujourd'hui, qui a été de faire passer, au fond, peut-être de permettre la perpétuation d'une certaine critique de l'impérialisme libéral, sans Marx, mais avec des éléments marxiens présents. Ça je serais tout à fait d'accord pour dire ça. Mais bon, je ne reprends pas ce que je disais sur le mos de la terre, mais il me semble quand même que Schmitt a thématisé, au fond, la critique marxiste de l'impérialisme elle-même comme asymétrique du wilsonisme et du discours universaliste américain, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la revendication marxiste, léniniste, portée au moment de la guerre froide par le camp de l'URSS, il la thématise comme, au fond, un discours hypocritement anti-impérialiste, qui invite les peuples à s'autodéterminer, à se rebeller, etc., à se libérer de leur statut colonial éventuellement. Et c'est aussi, pour lui, c'est quelque chose qui est dirigé contre l'Europe. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est, vous dites, il dit à l'origine de l'Europe, il y a la rapine, mais c'est très bien pour Schmitt, il n'y a aucun problème qu'il y ait la rapine et la conquista à l'origine de l'Europe.
Mais il demande à l'Europe d'assumer.
Oui, il demande à l'Europe d'assumer hautement contre les critiques de gauche et de droite.
Bien sûr.
De gauche et de droite.
Bien sûr.
Contre les gens qui disent, et surtout de gauche, d'ailleurs, la leyenda negra, etc. Donc, ça s'articule pas à une critique de l'impérialisme, donc ça change du tout au tout.
La reconnaissance de l'impérialisme comme une structure de la politique mondiale. Et ça, il y a un texte de 1925 qui s'appelle « L'impérialisme en droit international » où il dit l'impérialisme, il en parle comme si c'était le fait nouveau. Et ça ne l'empêche pas de dire, effectivement, c'est ce que je dis, c'est au fond, il veut que l'Europe assume son impérialisme, et puis l'impérialisme intra-européen des Allemands.
Donc, du coup, c'est une toute autre perspective théorique que l'idée de Lénine, que l'impérialisme, c'est le stade ultime du capitalisme. Qui va...
Oui, mais si vous voulez... Jamais,
de... Non, mais d'accord, mais du coup, je ne vois pas pourquoi... ce serait une telle référence centrale alors qu'il n'en partage ni les conclusions, ni le vocabulaire, ni les prémices. Donc je trouve que ça réduit assez fortement.
Regardez les histoires du droit international, de Triple, des autres collègues, et essayez de trouver les raisons de la différence. Il y a vraiment, à mon avis, c'est...
D'accord. Voilà. Alors, alors, je ne rends pas compte, hein, je le dis tout de suite, de la complexité et de la sophistication de votre argumentation sur le matérialisme sans matière et sur le nominalisme de l'épistémologie schmittienne, que, au fond, parce que ça implique une redéfinition même des termes, ou un travail sur la définition même de matérialisme, de nominalisme, à l'aide de Pierre Raymond, de Balibar, de Santi, et son thème d'une épistémologie matérialiste et d'une épistémologie silencieuse, aussi avec cette idée de thèse faible, mais qui serait opératoire, que je trouve assez intéressant, des thèses pauvres qui sont fécondes en même temps, et donc qui ne se laissent pas forcément exprimer comme thèse explicite, philosophique, dans le texte, qui sont plutôt opératoires. Je vais m'arrêter. au fond... Donc, alors juste les derniers points peut-être de désaccord un peu, c'est sur la guerre. Non, mais c'est des remarques de détail finalement, donc je vais peut-être les laisser tomber. On se les adressera parce qu'il vaut mieux que je laisse un temps pour la. Non, parce que ça finit quand? À 8h? À 19h30. Ah oui, je suis désolé. Donc je vais m'arrêter là et les remarques plus. De détails, sauf que voilà, j'avais une belle phrase de conclusion que je vais lire quand même. Hein, donc il me semble, moi ça m'a semblé tout à fait, je le dis et redis, hein, c'est tout à fait sincère, hein, en dépit des peut-être ce qui vous semble, très intéressant, et voilà, c'est un livre que je trouve vraiment brillant, en plus vraiment stimulant intellectuellement, très stimulant. Mais ce qui me semble étrange, c'est cette sorte de primat de l'épistémologie. Alors sur le politique, ça j'ai pas eu le temps de le dire, par rapport à des analyses de textes et de thèmes, comme l'humanisme théorique, le crime contre l'humanité, etc., mais j'ai pas le temps. En tout cas, une sorte de primat de l'épistémologie sur le politique, et même un primat de l'épistémologie silencieuse sur l'idéologie manifeste. Voilà, c'était la formule dont j'étais content, donc je l'ai placée pour finir.